Bonjour à vous tous. Bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien. On va avoir une belle émission pour vous parce qu'on aura de la belle visite. On va parler de la formidable exploration sous-marine de quelqu'un que vous aimez beaucoup, le plongeur océanographe Mario Cyr des Îles-de-la-Madeleine va être avec nous tout à l'heure en deuxième heure. C'est chouette parce qu'il lance une nouvelle exposition immersive sous les glaces de l'Arctique canadien. On va parler toutes sortes d'affaires avec Mario. On va parler des Îles-de-la-Madeleine, on va parler de l'été qui s'en vient, on va parler d'environnement, on va parler des océans, bien sûr. Si ça vous tente de lui poser des questions, bien sûr, sur ses formidables expériences sous l'eau, ça sera, je pense, une belle discussion qu'on pourra avoir avec lui. Après ça, on aura Pierre Verville, l'humoriste bien connu, qui est un fan ornithologue amateur. Parce que, pourquoi Pierre va être là? Il va être là avec Jean-Sébastien Guénette de Québec Oiseau. C'est le grand défi qui commence, là, le grand défi Québec Oiseau. Vous allez pouvoir participer. Si vous aimez, si vous appréciez les oiseaux et leurs chants, ben, vous allez peut-être pouvoir vous mettre à cette activité tout à fait printanière chez nous. Il y a un concours, vous pouvez gagner même, ramasser des fonds, en fait, pour la conservation des oiseaux, dont de plus en plus d'espèces, d'ailleurs, sont en voie d'extinction. Alors, on va parler de ça en deuxième heure. Évidemment, la première heure, un petit peu plus sérieuse, celle-là, c'est sur la fameuse crise du logement. Je vous en parle souvent ici parce que vous m'écrivez beaucoup là-dessus. Puis là, le débat ce matin, c'est est-ce qu'il y en a une ou il n'y en a pas de crise du logement? Parce que vous avez vu, là, la déclaration de François Legault continue de faire beaucoup, beaucoup réagir ce matin. On semble avoir de la misère avec le mot « crise du logement ». Là, le premier ministre du Québec, même la ministre de l'Habitation, André Laforêt, hier, avait de la misère à le dire. Là. Elle disait ben, « moi, je prône autant pour les locataires que pour les propriétaires », comme si elle ne voulait pas vraiment prendre position. C'est pas de prendre position, c'est de dire « est-ce qu'il y en a une crise du logement ou il n'y en a pas ?» C'est quoi la définition? On va y revenir. Mais je voudrais d'abord vous faire entendre ces déclarations pour bien savoir de quoi on parle. Là. Parce que, bon, on en a souvent débattu, est-ce que c'est possible de se loger pour 500$ à Montréal? François Legault disait, il était fâché qu'on l'accuse d'être décroché de la réalité, de pas vraiment avoir dit ça. Bien, jugez par vous-même.
Bien, écoutez, ça dépend de la grandeur du logement, là, mais je dirais, ça peut peut-être commencer à 500-600$ par mois, assez rapidement monter à 1000$ par mois. Et, Monsieur le Président, je sais que les étudiants, pour en avoir eu chez moi quand j'étais à Sainte-Anne-de-Bellevue, parfois vont se mettre 3-4 ensemble pour louer un logement, s'organisent avec les moyens du bord.
Et là, c'est vrai que les oppositions ont comme retenu le premier bout, c'est-à-dire le 500$. Mais vous entendez bien le premier ministre, là, puis je pense qu'il faut quand même admettre quelque chose. Il n'est pas tout le temps dans ce dossier-là non plus. En même temps, est-ce que ça vous paraît de décrocher de la réalité que de dire ça commence à 500-600 puis ça monte assez vite à 1000? En tout cas, on y est tombé dessus pas mal solide, sur le dos de François Legault. Voici ce qu'il a dit par la suite pour essayer de se racheter un peu.
J'ai lu hier soir dans les médias sociaux des commentaires méchants sur moi parce que on laissait entendre que j'avais dit qu'un loyer moyen pour une famille, c'était 500$, alors que vous savez très bien, tout le monde dans la salle ici, que j'ai jamais dit ça.
Alors, voilà où nous en sommes ce matin. Alors, peut-être qu'il a été pas très bien cité. Une chose est sûre, c'est que j'ai parlé régulièrement au cours de la dernière année à des gens qui sont locataires, qui se cherchent des logements, à des gens qui travaillent avec ces locataires, dont beaucoup font les frais de ce qu'on appelle aujourd'hui les rénovictions, c'est-à-dire des évictions sous prétexte de rénover. Parfois, le logement en a besoin, là, ça on le sait. Mais parfois, c'est aussi un stratagème pour éjecter des locataires qui n'ont plus d'autres endroits à aller. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça ce matin. Il est directeur général du comité logement Rive-Sud. On lui a parlé il n'y a pas très longtemps. Il nous faisait un peu le portrait de la situation sur la Rive-Sud de Montréal, entre autres à Longueuil. C'est Marco Monzo qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Monzo.
Oui, bonjour, Mme Rachel.
Je sais que ça vous a vraiment, vraiment fâché, vous, d'entendre François Legault dire que c'était 500-600$, c'était possible. Et là, toute la question du débat sémantique sur y a-t-il ou non une crise du logement. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Là. Depuis 48 heures, ça doit brasser pas mal chez vous. Là.
Oui, effectivement, ça fait réagir. Puis, un peu comme le disait notre gouvernement national, le frappé, on peut donner le bénéfice du doute au premier ministre que c'était peut-être pris hors contexte, mais il reste que il n'y a pas d'action qu'on voit concrètement, là, nous. Puis quand on parle de déconnecter, là, on parle pas juste de ce petit bout de mots qu'a dit le premier ministre, c'est dans l'incapacité de reconnaître la crise. On l'a vu, là, la ministre de l'Habitation, qui n'est pas capable de dire ces mots-là. On ne voit pas d'action concrète. On ne semble pas reconnaître que les gens vivent des crises, des drames au quotidien. Là. Fait qu'on les sent très loin de la réalité. Puis c'est pour ça qu'on parle de déconnexion de ce gouvernement-là.
Ouais. La crise du logement, le fameux terme, pourquoi on a de la misère à le dire comme ça, comme si ça brûlait la bouche? Pouvez-vous nous expliquer la définition, pour vous, M. Monzeau, de crise du logement? Parce qu'il y en a une, là.
Oui, il y a une crise du logement, là. Moi, je pense que quand on regarde et quand on est proche des gens qui cherchent des logements, là, on le voit, là. On voit les gens qui ne trouvent pas de logement, on voit des gens qui doivent accepter de vivre dans des conditions qui sont inacceptables parce qu'ils n'en trouvent pas, qu'ils peuvent se payer. On voit tous les drames que les gens vivent, puis on voit par exemple des personnes qui cherchent du logement, mais qui sont obligées de prendre des choses qui sont insalubres parce que c'est rien que ça qu'ils sont capables de se permettre. On voit des gens qui ont peur, qui sont anxieux parce qu'ils ne savent pas où ils vont se retrouver au 1er juillet. Puis oui, cette crise-là existe. Puis nous, ça fait 3 ans là, qu'on le répète, au gouvernement, on le répète à qui veut bien l'entendre, qu'il faut faire quelque chose. Heureusement, certaines municipalités ont fait de quoi pour permettre que les locataires au 1er juillet, parce que on parle souvent du fameux 1er juillet, pour pas qu'ils se retrouvent à la rue, mais c'est à Québec de mettre de l'argent pour faire du logement social, pour avoir un registre des baux qui va répondre à la situation en moyen long terme. Les organismes sur le terrain ne peuvent pas tout faire tout seul.
Oui. Vous me permettez de donner nos numéros de téléphone pour que les gens puissent nous appeler et témoigner surtout de cette situation-là. Dans le 514-790-9850, c'est à Montréal. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On a Pierre au bout du fil. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Isabelle. Vous allez bien?
Oui, on vous écoute, Pierre, là-dessus.
Écoutez, moi, l'année passée, j'ai loué un 5,5 sur le bord de l'eau à Montréal-Nord. J'ai demandé à la propriétaire de me montrer l'ancien bail parce que c'est notre droit à nous.
Oui.
Elle m'a chanté fleurette en me disant que bon, elle avait déchiré le bail avec l'ancien locataire parce qu'elle avait des problèmes. Bon. Alors, je l'ai cru parce que bon, quand on se rencontre la première fois, on est toujours certain que les gens sont honnêtes. Alors, j'ai loué. Elle m'avait augmenté de 400 $ de plus. Donc, le loyer était à 1000 avec l'autre dame et moi, j'ai signé à 1400. Quelques mois après avoir mis 3000 $ de rénovation dedans parce que j'ai dû peinturer et rénover un peu à mes frais, j'ai su que le loyer était loué 1000 $. Donc, j'ai été à la régie du logement, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire, étant donné qu'elle m'a augmenté de 400 $. Croyez-le ou pas, je peux vous le confirmer, à la régie du logement, ils m'ont expliqué que j'ai 60 jours pour revenir contre le propriétaire s'il y avait une hausse de prix. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'ai dû vivre avec ce phénomène-là. Je suis parti il y a 4 mois de là parce que, bon, c'était l'enfer. Et le monsieur qui vient de louer dernièrement, elle a augmenté 220 $. Mais ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre au monsieur où je demeurais. Je lui ai demandé de m'appeler et je lui ai demandé qu'il fasse ce que moi, je veux pas qu'il lui arrive ce que moi, il m'est arrivé. Mm-hmm. Donc, là, le monsieur est au courant, mais comme il dit, si je vais à régie du logement avec la pénurie de logement, je fais quoi? Fait qu'il est obligé de l'absorber. Je trouve ça dégueulasse. La seule chose que je peux vous dire en terminant, je souhaite de tout mon cœur que les propriétaires qui exagèrent à un point tel, ben, je leur souhaite qu'ils se rendent tous à la régie du logement, qu'ils soient 3-4 mois sans que les gens puissent payer leur loyer. Ils vont comprendre que le bon locataire qui était là, puis qui payait très bien, là, puis qui essaye de le mettre dehors parce que bon, il augmente de 50, puis de 100 $, puis de 200 $, ben, tant pis pour eux. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ben, merci, Pierre. C'était très clair. Marco Monzo, là-dessus, vous le voyez souvent, ça, ce genre de surenchère, parce que je disais tout à l'heure, il doit y en avoir une définition de la crise du logement. C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste un concept théorique. À partir de quand peut-on parler de crise du logement? Je cherchais la définition ce matin, Marco, sur Google, puis ça me paraît quand même assez clair. Ce qu'on dit, c'est quand il y a déséquilibre entre l'offre et la demande de logement et qu'il y a une démesure dans les prix d'habitation sur une période tout de même assez longue, c'est peut-être la notion de longueur qu'il faut peut-être déterminer, là, on peut parler de crise du logement. C'est ça votre définition à vous, vous diriez, ou...
Bien, oui, moi, je vous avouerai que comme directeur d'un organisme qui travaille sur le terrain, on va se baser beaucoup sur le vécu des gens.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on voit des gens? Puis c'est ça qui nous fait voir la crise. Nous, par exemple, l'année passée, autour du 1er juillet, on avait collaboré à mettre en place plusieurs comités pour répondre aux besoins des gens dans la MRC du Roussillon, qui est Châteauguay, ses alentours, et à Longueuil. Et dans ces deux endroits, dans ces deux comités de travail-là, au total, on avait reçu à peu près 300 appels de personnes qui étaient inquiètes de ne pas trouver de logement au 1er juillet.
Mmh.
Et c'est des gens qu'il a fallu accompagner. Pour nous, c'est clair qu'il y a une crise. Puis oui, vous le dites, là, présentement, l'équilibre, quand on parle d'équilibre, on parle d'un taux d'une occupation d'à peu près 3%. Puis là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans ces taux d'une occupation-là.
Mmh.
Bien en bas, puis quand on regarde aussi le type de logement, là, les grands logements, le taux d'une occupation est encore plus bas. On peut pas juste regarder de façon générale.
Oui, parce que François Legault, en plus, quand il parlait d'un loyer à 500-600 $, il n'a pas précisé quel type de loyer. Il n'a pas parlé d'un grand logement non plus. Puis c'est bon, peut-être que c'est possible d'en trouver un 1,5, là, un studio à 500-600 $ à Montréal. À Longueuil, dans votre coin, en avez-vous des logements à ce prix-là?
Non. Comme vous dites, nous, ce qu'on voyait, c'est ce qu'on a comme statistique, c'est ce que la Société canadienne d'hypothèque et de logement nous a fourni au mois d'octobre. Puis là, quand on parle des prix de 500-600 $, c'est les studios, là. Mais quand on parle de logements plus grands, là, ça monte rapidement pour les logements qui sont inoccupés et occupés, là. Par exemple, à Longueuil, on parle de moyenne. Ça, c'est en octobre dernier. C'est beaucoup plus important aujourd'hui, là. On parle pour des logements inoccupés, on parle de 1 200 $. Puis, à Brossard, c'est pire. Là, je vous parlais de la ville de Longueuil, mais à Brossard, c'est encore plus. On parle de 1 200 à 1 300 $. Ça, c'est une photo qu'on a prise en octobre dernier. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, c'est beaucoup plus grand. Puis quand on regarde les petites annonces, il n'y a personne qui trouve un logement à 500-600 $
ouais.
qui est convenable.
Marco Monzo, vous êtes du comité logement Rive-Sud, mais si je me fie à la lettre ouverte que vous avez peut-être lue de Hans Brouillette, qui est le porte-parole de la CORPIC, la corporation qui représente les propriétaires du Québec, son titre est assez éloquent. Il parle de l'invention d'une crise. Il dit « Il n'y a pas de pénurie de logements à Montréal pour l'instant. Les loyers ont augmenté, mais ils demeurent abordables. » On va lui parler d'ailleurs tout à l'heure à M. Brouillette. Il va clarifier tout ça. Mais est-ce qu'on s'invente une crise du logement en ce moment, Marco?
Si on parle aux gens qui la vivent, clairement, il n'y en a pas. On n'invente rien du tout. Là. Puis moi, j'invite M. Brouillette à parler aux locataires qui, demain matin, ont peur de se retrouver sans logement. Les gens qui doivent accepter des situations intenables pour se trouver du logement. Donc, nous, quand on est sur le terrain, on parle à des milliers de locataires par année. Hein. Puis à travers les années, on a parlé avec des dizaines de milliers de personnes. Puis je vous dirais, c'est une situation qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais eu autant d'appels. On n'a jamais eu autant de personnes en détresse qui nous ont appelés. Là. Puis les organismes qui s'y connaissent, ils savent qu'il y a une crise du logement.
Mais quand on dit « ouais, mais c'est bien moins pire à Montréal », le monde se plaint, mais s'il était à Toronto ou Vancouver, ça serait bien pire. Qu'est-ce que vous répondez, M. Monzo?
On peut pas comparer. C'est deux marchés complètement différents. Puis la détresse que les gens vivent, elle est tout à fait réelle. Là. Nous, on parle de personnes qui se dérèglent, qui sont devant des situations que moi je peux pas imaginer parce que je la vis pas présentement. Mais la personne, la famille qui suppose qu'elle va se retrouver avec ses enfants au 1er juillet, que ce soit à Toronto ou à Québec, la situation est pareille.
Il y a des gens qui disent, bah oui, mais c'est juste c'est du monde pauvre, du monde démuni, des gens qui sont sur l'aide sociale. Est-ce que c'est vrai, ça?
Bien, les populations les plus vulnérables sont toujours le plus touchées par ce genre de situation-là. Mais on voit de plus en plus des gens de la classe moyenne qui peinent à trouver des logements. Là. Les témoignages, que les gens parlent à leurs voisins, là, ils vont toujours trouver une histoire de quelqu'un qui a essayé de trouver un logement puis qui était surpris de l'avoir le montant. Ça, c'est les personnes qui peuvent se payer des montants, des montants assez importants, mais les personnes qui ne peuvent pas, là, ils sont pris, là.
Oui. Merci beaucoup, Marco Monzo, directeur général du comité logement Rive-Sud. Je vous laisse aller à votre rendez-vous. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On va s'arrêter ici. 514-790-9850. On va vous donner la parole tout de suite après la pause et de l'extérieur de la grande région de Montréal parce que c'est clairement pas juste un problème qui touche la ville de Montréal. Je pense que même quand on refuse de dire qu'il y a une crise du logement, on admet quand même. Puis François Legault l'a quand même un peu dit, dans certaines villes du Québec, il est d'accord pour dire qu'il y a un certain problème, peut-être plus important. Et je compte sur vous pour en témoigner. Vous faites de l'extérieur de la grande région de Montréal le 1-866-790-9850. Puis après la pause, écoutez ça, il y a une dame, là, en plus d'avoir de la misère à se trouver un logement, Mais il y a des locataires qui sont prêts à avancer de l'argent pour en réserver un, mettre un dépôt. Vous savez que le dépôt, normalement, c'est pas légal. Hein, pas supposé mettre un dépôt pour pouvoir louer un logement. Mais il y en a qui demandent. Puis il y a des locataires un peu pris, mal pris, qui disent, bon, OK, on va le faire. Il y en a même qui ont fait tellement qu'ils se sont fait avoir. Et il y a une augmentation des fraudes au logement. On va parler avec Sandra Hartmann, qui justement est cette locataire qui a été fraudée avec sa colocataire. Une somme importante. Elle va nous dire ce qui s'est passé tout de suite après ceci. Des fraudeurs qui s'en mettent plein les poches sur le dos des locataires. On voit ça de plus en plus souvent. C'est ce qui est arrivé à Sandra Hartmann, qui est avec nous, qui est une locataire qui a été fraudée avec son amie. Elle voulait déménager. Ils avaient trouvé une belle propriété à louer à Longueuil. Ça s'est passé lundi cette semaine. C'est une annonce qui a été vue sur Marketplace. Sandra est avec nous. Bonjour, Sandra.
Allô, ça va
vous...
bien?
Oui, mais merci de prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous avez vu cette annonce sur Marketplace?
Oui, dans le fond, c'est Sandra Cyr qui a décidé d'aller sur Marketplace pour regarder des logements loués. Puis elle a découvert un logement loué qui n'était pas cher, 900 $ pour un 4,5, c'était une maison. Alors, elle décide de décrire à la personne. C'était tout meublé parce que dans le fond, sa fille à lui. Était à Québec pour faire des études.
Au propriétaire, ça, hein, c'est ça?
Oui, exact. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'est ça, c'était meublé et... Désolée, je te fais
Non, mais il n'y a aucun problème. Donc, avec votre amie, Sandra Cyr, qui a fait la première approche, vous trouviez que l'histoire du propriétaire, c'était plausible, puis lui semblait honnête,
vraiment.
Là.
Oui, c'est ça. Dans le fond, il voulait le premier mois de loyer, puis le dernier en caution, mais ça aurait retiré à la fin de notre bail, dans le fond, le dernier loyer. Fait que nous, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment d'un bon propriétaire et tout. On y parlait. On est allé faire la visite lundi. On avait rendez-vous à 5h30. Rendu là-bas, il n'est pas arrivé. On le texte. Il dit qu'il arrive dans pas long. Que sa fille arrive dans pas long, désolé. Puis il n'arrive pas. Fait que là, rendu 6h, je vois qu'il y a un auto dans le parking de la maison. Alors, je décide d'aller sonner. Juste pour voir. La madame rouvre la porte, puis j'ai dit que c'était pour la maison à louer, puis elle me regarde, puis elle me fait un signe de tête de non, qu'il y a quelqu'un, il y a deux jours qui a passé par là, puis qui s'est fait frauder. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, elle dit d'appeler la police immédiatement, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait une plainte à Longueuil. Alors nous, on a décidé d'appeler la police, mais à Sainte-Julie, vu qu'on est à Saint-Amable. C'est ça, dans le fond...
Et vous aviez donc versé l'équivalent du premier mois comme le loyer d'avance, c'est ça? 900 $ à l'avance, donc.
Parce que, dans le fond, on l'a versé parce que il nous avait dit qu'il y a beaucoup de monde qui voulait visiter puis qui a choqué. Fait que eux autres descendaient de Québec. Fait que nous autres, on a comme compris la situation, mais on voulait pas envoyer le mot de passe, puis c'était correct. On n'a pas envoyé le mot de passe, mais il y a... Je sais pas comment ça s'est passé, mais il a réussi à avoir l'argent pareil.
C'est incroyable, cette histoire.
Oui, vraiment. Puis même, on a appelé Sandra Cyr. Elle a une assurance à la banque où est-ce qu'elle est, Desjardins.
Oui, votre amie là, avec qui vous vouliez louer ça. Mm-hmm.
Oui, exact. Puis ils veulent même pas nous rembourser à rien. Là.
Fait que vous avez perdu, Sandra Hartmann, vous avez perdu 900 $ du premier mois de loyer, puis vous avez payé l'espèce de dernier mois qui est l'avance de 900 $ donc qui était comme une caution. Là. Donc,
oui,
1800 $ vous avez payé.
Exact.
Et perdu.
Oui.
Et pas
faudrait
de possibilité.
On a appelé la police, puis ils ont dit que c'est au civil qu'il faudrait aller, il faudrait appeler les avocats et nanana, mais tu sais, c'est beaucoup d'argent. On vient de perdre 1800 $ en plus.
Oh, c'est incroyable. Donc, ouais, la police vraiment. De Sainte-Julie vous a pas aidé du tout, là, finalement?
Ben, pas vraiment, non.
Ouais. Et ça doit être.
Alors, vous devez être... par exemple.
Ouais, OK. Mais en même temps, c'est difficile à trouver. Comment ils ont pu... Parce que là, ce que je comprends, c'est que vous aviez comme fait un virement, mais sans toutefois donner le mot de passe.
Oui, exact. Je sais pas comment que... Je sais vraiment pas comment qu'il a pu prendre l'argent sans le mot de passe. T'sais, habituellement, c'est sécurisé, ces affaires-là. Là.
Est-ce que c'est un virement Interac ou c'est un virement via votre banque? Un virement bancaire, mais pas Interac?
Là, c'est un virement Interac avec un code qu'il n'aurait jamais trouvé, là.
Parce que normalement, on peut annuler des virements Interac. Avez-vous essayé de l'annuler, le virement?
Oui, on l'a essayé. Même. Je ne sais pas comment il a fait pour vrai. Il ne serait même pas supposé de l'avoir l'argent sans avoir le mot de passe.
Ah! Ça, c'est effectivement très, 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 c'est fascinant parce que normalement,
oui, vraiment,
c'est...
Ouais. Il est vraiment bon dans ses affaires. Même le policier nous l'a dit, il a lu toutes les screenshots qu'on a faites pour leur montrer. Puis lui aussi, il s'est fait pogner pour vrai. Le faux propriétaire, il était vraiment à son affaire.
Dans le fond, il a pris cette adresse-là, ça aurait pu être n'importe quelle adresse. Il a mis des belles photos, une belle annonce, mais c'était une fraude directe, là. Ça, c'était même pas sa maison. Si, je ne sais pas si ça peut vous faire mettre un peu de bombe sur votre histoire, mais vous êtes vraiment loin d'être la seule. Ça a l'air qu'il y a une augmentation importante là, des fraudes recensées dans la dernière année qui sont en lien avec le logement. Qu'est-ce que vous allez faire, Sandra, avec votre amie? Vous allez vous revirer comment? Parce que là, il faut que vous trouviez un logement.
Oui. Mais là, on habite chez ses parents pour l'instant. Fait qu'on n'est pas dans la rue non plus. Là. Mais je sais pas, c'est sûr qu'on va faire plus attention, là. Je veux dire, même si c'est sur Marketplace, sur Facebook, j'aurais pas pensé que quelqu'un aurait fait ça. C'est d'être prudent, là, surtout, là, de...
Aviez-vous demandé l'identité, en fait, du propriétaire? Avez-vous essayé d'avoir ses coordonnées, son cellulaire, de son adresse, ses coordonnées bancaires? C'est sûr que plus on a d'informations, mieux on se porte, là.
Oui, mais j'avais son nom, son numéro de téléphone. Tu sais, moi, c'est pas la première visite d'appartement. T'sais, habituellement, je demande pas ça, là. Tu sais, il faut. Tu sais, là, oui, on va être plus prudente parce que ça nous est arrivé. Mais sinon, on n'aurait pas pensé à ça, là. Nous autres, on a vu une belle opportunité. Le loyer était pas cher.
Et vous êtes surtout deux personnes honnêtes aussi, Sandra. Tu sais, quand vous dites, nous, ça nous serait pas venu de penser à ça. Savez-vous pourquoi? C'est quand t'es honnête, tu penses pas qu'à la première occasion, il y a quelqu'un qui va te frauder. On pense pas à ça quand on est honnête. Puis malheureusement, c'est les meilleures personnes pour se faire avoir. Donc, il faut vraiment devenir très, 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 très suspicieux. C'est malheureux, là, parce que ça fait une drôle de société. Et merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver avec votre ami un logement puis que ça va bien se passer pour vous. Quand vous avez entendu François Legault dire 500-600$ peut-être, puis vous avez pensé quoi, Sandra?
J'ai pas entendu ça, par exemple. Je suis pas quelqu'un qui écoute les nouvelles. Là.
Ah, ben écoutez-nous, j'espère. En tout cas, je vous le dis. Bon, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit, mais bon, disons que c'est pas évident. On va vous souhaiter bonne chance dans votre chasse de maison abordable. Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir parlé. Merci bien.
Bye-bye.
N'empêche que c'est vrai, tu sais, quand t'es pas malhonnête, tu penses pas que le monde va essayer de te frauder tout le temps. C'est pas la première affaire qui te vient, là, tu sais. C'est comme quelqu'un qui ment, là, tu sais. Quelqu'un qui est pas menteur, va pas penser tout de suite qu'on lui ment. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Si vous voulez bien, on va aller à la pause, puis on va revenir avec vos commentaires qui sont nombreux. Vous avez beaucoup de monde là, qui veulent intervenir. Je vous donne la parole tout de suite après ceci. On aura également la Corpic qui va nous dire, ça a l'air qu'on l'invente, la crise du logement. Mais vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite, tout le monde. Beaucoup, beaucoup de réactions par rapport au témoignage de Sandra Hartmann. Beaucoup de gens qui me disent, ben oui, c'est de même, ça marche Interact. T'as pas toujours besoin d'avoir un mot de passe, semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens là, qui, à partir du moment où vous activez la fonction automatique, dépôt automatique, tu n'as pas besoin de mot de passe. Ça semble être la chose. On a Daisy qui est avec nous et qui semble s'être fait frauder elle aussi. Bonjour Daisy.
Bonjour.
Ça vous est arrivé un peu la même histoire? Vous cherchiez un logement?
Oui, c'est ça. Je cherchais un logement, notre premier appartement, moi et mon copain. Puis, on l'avait aussi justement trouvé l'annonce aussi sur Facebook, sur Black Market. C'était un logement aussi tout meublé avec Internet, télévision, puis tout. Puis, la madame qui s'appelait Marie-Josée Lambert, elle se faisait appeler Marie-Josée Lambert.
Ouais.
Elle nous disait que fallait donner un premier mois de loyer qui était 650. Pour pouvoir aller visiter l'appartement, sinon on pouvait pas parce qu'elle disait que elle aussi, elle avait eu des anciens locataires qui n'étaient pas sérieux.
Donc à partir de maintenant, elle prenait un dépôt puis elle voulait une caution, donc il fallait donner ça à l'avance, j'imagine. C'est ça, un peu la même histoire.
C'est ça. Ouais.
Donc vous avez perdu combien dans cette affaire-là, Daisy?
Ben c'était 650 trois fois.
Trois fois?
À peu près 1 000 $.
Wow!
Ouais.
Ça fait mal au cœur. Puis avez-vous, comme Sandra tout à l'heure, essayé d'appeler la police, de vous de retrouver l'argent auprès de votre banque, parce que, bon, on peut au moins faire l'effort de... Souvent, là, pour avoir déjà été fraudé, je vous le dis, là, la banque, souvent, se retrouve avec une adresse IP qui atterrit nulle part. C'est vrai qu'ils sont bons, les fraudeurs, on le sait. On le dit chaque fois qu'on parle à Stillwaterhouse, ils nous disent que les fraudeurs sont meilleurs que les banquiers. Et que voulez-vous? Mais la police vous a dit quoi dans ce cas-là? Êtes-vous allé d'abord à la police?
Mais dans le fond, ben, c'était vu qu'elle nous demandait de faire comme de donner d'aller dans un dépanneur pour prendre des coupons NeoSurf, que c'était de cette façon-là qu'il payait les loyers. Ben on est allé puis elle nous disait de prendre en photo puis de pas envoyer le NIP puis tout.
Oh mon Dieu, mais okay. Ouais, ça sentait pas bon, hein. Mm-hmm.
Ouais, puis après, ben moi, vu que c'était mon premier appartement, puis je le voulais vraiment, ben j'ai pas vraiment écouté mon entourage qui me disait que c'était louche.
Ah, ouais.
Donc j'ai fait. Puis là, ben elle nous avait donné rendez-vous dans un poste de police à Montréal, à Dollard-des-Ormeaux, parce qu'elle disait qu'elle allait nous redonner l'argent, mais elle s'est jamais pointée. Puis là, on est allé voir la police à Montréal, puis elle nous a dit que vu que ça s'est passé à Laval, fallait y aller, mais mon copain, il est juste pas allé porter plainte.
Ouais, ouais, je comprends. Il y a un moment donné, on en a assez, là. Hey, merci beaucoup, Daisy, de nous raconter ça. C'est tellement désolant. Merci bien. Avez-vous quand même pu trouver un logement?
Oui, on en a trouvé un.
Bon.
Oui.
Dans vos prix?
Oui, dans nos prix.
Bon, ben merci. Merci beaucoup. C'est désolant, ces histoires-là.
Ouais.
Des jeunes, des personnes seules, ça peut arriver à tout le monde. Puis il faut être super vigilant. On ne le sera jamais assez. On vous le dira jamais assez. Il faut se le dire, on n'est tous pas à l'abri d'un fraudeur. Ils ne pensent pas comme nous autres. Des personnes honnêtes puis des personnes malhonnêtes, ça ne pense pas pareil. On a avec nous Hans Brouillette, je vous en ai parlé tout à l'heure, porte-parole de la CORPIC, la Corporation des propriétaires du Québec. Bonjour, Monsieur Brouillette.
Bonjour, Madame Maréchal.
J'ai parlé tout à l'heure avec Marco Monzo du comité logement Rive-Sud. On avait lu avec beaucoup d'intérêt votre lettre dans les journaux ce matin. Vous dites « inventer une crise du logement ». Bon, pour se faire réélire, vous accusez entre autres certains groupes, dont Québec solidaire, Projet Montréal, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, de vouloir faire du pouce puis de s'accumuler des votes en appuyant sur ce dossier-là. Je vous avoue qu'on s'en est parlé beaucoup, Hans, hein, au cours de la dernière année, de l'augmentation des prix, de la bulle immobilière, du fait que oui, effectivement, c'est vrai qu'on assiste à une surenchère dans le prix des propriétés sur le marché, mais aussi dans les logements disponibles et dans les loyers. Les gens en témoignent depuis tout à l'heure. Vous, vous dites inventer une crise du logement. Pour vous, c'est clair, il n'y a pas de pénurie de logements à Montréal pour l'instant.
Non, et on a les chiffres tout frais de cette semaine. Donc, depuis le 21 avril, on a sondé nos membres. On a plus de 10 000 logements dans l'échantillonnage sur l'île de Montréal. Et là, je parle bien de l'île. Parce qu'il y a des gens, depuis le début de la pandémie, ont quitté l'île ou ne sont pas venus comme ils devaient le faire, ils prévoyaient le faire. Alors, hors de Montréal, il y a 1% ou moins des logements qui sont disponibles. Mais à Montréal, au moment où on se parle, Mme Maréchal, ce sont 4,7%. Mettons 5% des logements qui sont vacants et un autre 5% qui sont affichés, sont disponibles. Le bail va probablement se terminer d'ici le 30 juin, donc ils sont sur le marché. Là, bien sûr, certains vont dire « oui, mais les loyers sont chers ». Ça, c'est autre chose. C'est vrai que les loyers ont beaucoup augmenté au fil des ans. Les meilleurs logements ont déjà trouvé preneur. Les logements les moins chers, mieux situés et en bon état, ben les locataires les annoncent pas, les quittent pas, donc ils sont pas retournent pas sur le marché. Mais on est dans une période où quand même les revenus des locataires ont augmenté globalement. L'aide gouvernementale l'an dernier a pallié à des problèmes financiers sérieux. L'emploi reprend. C'est sûr qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Là. Je parle en termes d'abordabilité. Là. Il y a des familles qui ne peuvent pas arriver avec ce qu'ils ont. Et malheureusement, les coûts d'habitation, je ne parle pas du loyer, mais je parle d'un immeuble, augmentent plus vite que leur revenu.
Mm-hmm. Oui, ça, c'est comme vous dites, c'est autre chose aussi, mais ça fait partie de la donne. Parce que c'est sûr que la notion de dire l'accès à une propriété en se basant sur l'indice de disponibilité des logements... Ça, c'est une donnée, mais c'est pas une donnée qui est tant valable que ça dans la mesure où, là, on le voit bien, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir accès à une propriété. Fait que c'est sûr que Il y en a peu, et même ceux qui restent, les gens vont dire, ben j'ai pas le choix, je vais donc payer le prix. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'augmentation des loyers. Puis quand on revient à cette fameuse définition de la crise du logement, là, que personne veut admettre qu'il y a, bon, ce que les comités logement disent, ce que les locataires qui sont en quête d'un logement disent, M. Brouillette, c'est qu'il y a véritablement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Puis ça fait un petit moment, donc on peut dire, oui, effectivement, il y a crise.
Oui. Il y a une réponse à ça. On la voit depuis 3 ans. Ce sont des records de construction de logements qui se font, donc des dizaines de milliers. Et là, les j'entends les comités logements qui vont dire, ben oui, mais M. Brouillette, c'est des logements à 1 500. D'abord, c'est ce que ça coûte à peu près, là. C'est ce que ça coûte aujourd'hui. Si il n'y a pas ces loyers-là, les logements ne se construiront pas. En fait, on le voyait, là, les loyers étaient trop bas il y a 6 ou 7 ans. Mm. Il n'y en avait pas de construction. Depuis 3 ans, ça a augmenté. Il y en a de la construction. Mais je me rappellerai cette chose au comité logement. C'est que quand on crée des logements neufs, on fait en sorte que des gens qui veulent mieux se loger dans du meilleur état vont quitter leur logement pour aller dans ces logements neufs. Donc, ils libèrent des unités peut-être moins en moins bon état ou moins bien situé, mais aussi moins cher. Donc, tout le monde peut mieux se loger. Là, c'est sûr que si vous avez des propriétés, les gens qui voulaient acheter une maison là ou en 2020 ou cette année, il y en a beaucoup qui ont reporté leur projet. Donc, ils restent dans le marché locatif. Alors ça refoule aux portes, comme on dit. On a des étudiants qui retournent, veulent se rapprocher de l'université parce que là, les cours en présentiel reprennent. On a des couples qui se séparent. La demande est forte, ça c'est un fait, mais on est dans une période où il y a beaucoup de bouleversements, mais il va y avoir un rajustement. En autant qu'il se construit des logements, à un moment donné, là, il ne peut pas avoir plus, beaucoup plus de logements qu'il y a de demandes. Alors,
mais pour vous, est-ce que vous diriez, le logement, c'est une denrée, c'est comme d'autres choses. Il y a l'offre et la demande, puis moins il y a d'offres, et plus il y a de demandes, et plus les prix sont chers. Ça vaut, c'est un concept économique, hein? C'est comme combien tu es prêt à payer pour ce bien-là. Mais est-ce que pour vous, le logement, il y a quand même, ça fait quand même partie des droits de humain, là, d'avoir un toit sur la tête. Puis je comprends le point de vue des propriétaires aussi. On va parler à Magali là, dans 2 secondes. Mais pour vous, est-ce que vous dites, ben c'est un libre marché, puis c'est ça qui est ça. Faut que les gens payent. Sinon, ben
il peut pas être totalement libre parce qu'évidemment, un locataire peut pas subir une augmentation de loyer du double et il est obligé de quitter pour le 1er juillet.
Bon, mais des fois, ça arrive, Monsieur Brouillard, par exemple. Ça
Non. Les locataires ont droit au maintien dans les lieux. Là, j'ai le droit de renouveler mon bail si je veux. Puis si le propriétaire m'augmente trop, j'ai le droit de refuser l'augmentation.
Mais au 31 décembre de l'année qui précède, si le propriétaire fait une reprise de possession, sincèrement, il a le droit de récupérer son logement. Il faut juste qu'il le fasse dans les règles.
Une chance. C'est un droit de propriété. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un gouvernement, un tribunal, un comité logement ou des locataires qui peuvent m'obliger à louer un logement à un prix qui, moi, là, me convient pas. Moi, j'ai pas envie, je vous donne un exemple, j'ai pas envie de gérer un immeuble, avoir des problèmes, avoir quelqu'un qui me marche sur la tête pour un revenu qui, finalement, diminuerait ma qualité de vie. Alors ça, il y en a aussi des propriétaires qui ont tout simplement retiré leur maison du marché, pas leur maison, mais leur logement du marché.
Préfère qu'il soit vide plutôt que de le louer à perte. Pas. Justement, ben là, on a fait parler des locataires. On va donner la parole aux propriétaires. On va être équitable à cette émission. On a Magali qui est avec nous, justement. Bonjour, Magali.
Oui, bonjour.
Vous êtes une jeune mère de famille. Vous vous dites, l'immobilier, c'est un peu votre revenu principal, c'est ça? Mais vous n'êtes pas riche, là.
Exactement. Je veux dire, on est dépeint comme des richissimes investisseurs qui veulent faire de l'argent sur le dos des gens. Nous, c'est pas le cas. Moi, je suis une jeune mère de famille, j'habite en banlieue. Oui, on a des investissements immobiliers, mais on n'est pas millionnaire pour autant. Puis, en fait, moi, je veux juste dire que j'ai des immeubles que j'ai des locataires qu'on a achetés et qu'il y a des locataires qui sont là depuis 20-30 ans, qui payent effectivement des loyers de 4,5 à 500-600 $. Et moi, je peux pas la régie du logement me bloque, là. Je peux pas les augmenter plus que ça. Mm-hmm. Mon immeuble a coûté très cher et puis ils ont leur logement depuis 20 ans, 30 ans. Je vais pas les évincer. Je n'ai pas le droit de le faire. Alors, j'ai des loyers qui sont à ces prix-là. J'ai des logements, par exemple, qui sont vacants, que je rénove, puis que je reloue après ça 1 000, 1 200 $. C'est des 4,5 qu'on investit 30,000, 40,000 $ dans le logement pour le rénover. Alors, je peux pas. il y a un problème de salubrité de logement à Montréal. Il y a des, il y a beaucoup de logements, j'en vois, là, on achète des immeubles, il y a des rats, il y a des punaises. Il y a, c'est pas moi qui les ai amenés les rats, c'est pas moi qui les ai amenés les punaises. Des fois, c'est le locataire qui entretient pas bien les logements et tout ça. Nous, on met beaucoup d'argent pour les, pour mettre ça salubre, pour mettre ça beau, pour mettre ça clean, pour que les gens soient bien chez eux, pour qu'il y ait des beaux logements. Après ça, on peut pas demander aux propriétaires de louer des logements à 500 $. C'est sûr que quand je les rénove, je les reloue plus cher. J'investis des sommes considérables dans l'immeuble. Alors, c'est deux poids deux mesures. Des fois, on dit, je suis d'accord avec le fait que le logement, c'est un bien essentiel, comme l'alimentation, mais on tire pas sur les épiceries parce qu'ils font un profit sur la pinte de lait qu'ils nous vendent. Nous, c'est normal qu'on fasse un profit. On n'est pas un organisme à but non lucratif. Si l'État veut prendre en charge les locataires ou les gens démunis, il y a pas de problème qu'ils le fassent, mais ils peuvent pas demander des gels de loyer et tout ça. Faut prendre en considération que les immeubles coûtent cher aussi, que les immeubles à Montréal sont pas donnés.
Merci Magali, merci bien. Merci beaucoup. C'est une explication très claire, une position de propriétaire. Mike est proprio également. Bonjour Mike. Mike, vous êtes là?
Je suis là, vous m'entendez?
Oui, on vous entend maintenant. Allez-y, on vous écoute.
Je suis déchiré entre tout ça au complet. Ouais. Autant je suis propriétaire d'immeubles locatifs, autant que dernièrement, depuis la dernière année, plusieurs jeunes de mon entourage, des employés, des collègues de travail à la recherche de logements. Je crois, et je l'ai vécu pour avoir épaulé les deux côtés, dans le logement, on est très sélectif. Alors, quand on veut louer un appartement, on cherche toujours des beaux critères, on cherche ci, on cherche ça. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de crise selon moi, on met ce mot-là de l'avant. Je pense qu'on est un petit peu plus pointilleux. Il y a des quartiers que ça coûte plus cher que d'autres, au niveau du logement, c'est compréhensible dans tout ça au complet, mais on doit trouver un petit équilibre. Je suis très d'accord avec la personne qui vient de parler avant moi. Elle aussi, elle a des blocs appartements ou des logements en location. J'en ai. Mes coûts d'investissement augmente, mes frais fixes augmentent, la taxation, les obligations. Et en quelque part, j'ai investi dans le logement locatif pour faire un peu de sous, préparer ma retraite. Je suis pas riche, je fais partie de la classe moyenne. Mais s'il vous plaît, quand on met le mot crise, j'aimerais ça juste qu'il y ait un mot qui s'appelle plus l'équilibre entre les deux sphères, entre le locatif puis les gens qui se cherchent un logement, moi en tant que propriétaire. C'est pas vrai que tous les locataires abîment les appartements, c'est pas vrai. Il y a des très bons locataires qui sont là, il y a des très bons locataires payeurs, faut pas avoir peur de se le dire. Puis il y en a d'autres qui abîment. Moi, quand un de mes appartements se vide parce que la personne a décidé de quitter, je veux l'entretenir, je vais le peinturer, je vais le mettre au goût du jour, je vais peut-être uniquement le rafraîchir, mais ça me coûte des sous. Ça me coûte des sous. Alors, il faut avoir une compréhension. Et je suis un peu tanné d'entendre crise, 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 crise. On est très facile à mettre le bouton sur la crise. S'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, le gouvernement ne peut pas aider tout le monde, mais je demande juste un équilibre. Puis la plupart des propriétaires sont capables d'avoir cet équilibre-là.
Merci.
Et 95% des locataires qui cherchent un appartement sont capables d'être compréhensifs.
Merci.
Le petit bout qui ne sont pas contents, mais s'il te plaît, on ne pourra jamais rendre tout le monde heureux.
Merci, Mike. Merci beaucoup. On va garder Anne Brouillette avec nous, directeur affaires publiques de la Corporation des propriétaires du Québec. On va revenir avec vos commentaires et la conclusion de ce sujet tout de suite après. Y a-t-il ou non une crise du logement? Puis accessoirement, je voulais savoir combien vous payez, vous, pour vous loger en ce moment. Est-ce que c'est vrai qu'on peut se trouver, par exemple, sur l'île de Montréal encore un petit logement pour 500-600 $, comme semblait le dire le premier ministre du Québec, même s'il a admis aussi que ça monte rapidement à 1 000 $. Puis bon, il dit qu'il parlait des étudiants, puis du monde qui sont obligés d'être en colocation, 2-3 personnes pour séparer le loyer. On voit ça de plus en plus. Ali est avec nous. Bonjour Ali, vous êtes propriétaire à Ville-Saint-Laurent, puis vous dites, oui, il y en a eu une crise du logement.
Oui, bonjour. En fait, effectivement, il y a une crise du logement. Ça, c'est vraiment à cause de l'obsession du gouvernement de vouloir contrôler les prix des loyers. Parce que aussitôt qu'un locataire décide de quitter un logement, il se heurte à la réalité. Il se heurte vraiment que les prix des loyers ne sont pas comme ça fait 10 ou 15 ans. Je vous explique. Moi et ma conjointe, on est propriétaire d'un bloc. On a un 4,5 loué par un monsieur, ça fait 25 ans qu'il est là, 650 $ par mois.
Ouais.
Il est tout seul.
Ouais.
Pensez-vous que ce 4,5-là, il peut accueillir une famille dans le besoin? Mais nous autres, on ne peut pas rénover parce que ce n'est pas rentable.
Ouais.
On ne peut pas augmenter. Donc, on va le laisser délabrer. Et aussitôt qu'il y a une fuite d'eau, ça va être une rénoviction. C'est ça qu'on appelle rénoviction. Mmh. Ben, c'est le gouvernement qui cause ça, malheureusement.
Mais quelqu'un qui vous écoute va dire, ben Ali, votre bloc, il est payé depuis le temps?
Non, il n'est pas payé. On est des travailleurs de la classe moyenne, puis on a une hypothèque à payer.
Oui, mais il ne doit plus, après 20 ans, ça doit achever dans pas longtemps quand même.
C'est ça, à moins qu'il n'arrive plus à... Non, non, je vous parle le monsieur qui habite...
Non, mais moi, je vous parle de vous, votre hypothèque. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans vos finances, mais bon, au bout de 25... Ça dépend, après, ce qu'on fait. Il y a aussi beaucoup de gens qui se servent de leur hypothèque comme d'un levier, de leur propriété comme un levier. Fait que c'est sûr que tu ne payes jamais ton hypothèque, mais tu as pris de l'argent pour essayer de faire autre chose avec. Il y en a qui... C'est comme ça qu'ils se bâtissent, d'ailleurs, un portefeuille immobilier, là. On n'a plus de temps pour parler de l'effet de levier, mais disons que c'est intéressant. Merci, Ali. Merci beaucoup de votre témoignage. On a Jean-François aussi qui est avec nous. Je comprends que vous êtes propriétaire, vous aussi, Jean-François?
Oui, moi, j'ai un triplex à Montréal-Nord. Oui. Mettons, la plupart ne veulent pas donner de chiffre de salaire et tout, là, mais si je suis honnête, là, moi, je suis un homme seul qui gagne 50 000 par année.
Okay.
Donc, ça devrait situer un peu les gens là, sur mes revenus.
Oui.
Moi, j'avais un condo avant, j'ai lâché mon condo pour aller vers une propriété à revenu, mais je veux dire, je fais pas ça pour les beaux yeux des gens. Là. Il faut qu'en bout de ligne, ça me rapporte un petit peu à moi, là. Sinon je vais garder mon condo. Donc, j'ai vendu mon condo pour un triplex et en plus, je l'ai acheté à l'été passé.
Ouais.
Le prix des maisons a augmenté de 30%.
Ouais. Ouais.
Le prix des loyers n'a pas augmenté de 30%. Donc, déjà là, on est en train de perdre complètement le sens d'une propriétaire revenue. Et puis, l'autre côté de ça, c'est que moi, la personne de qui j'ai acheté la maison a acheté ça peut-être dans les années 80-70, a peut-être payé ça une trentaine de milliers de dollars. Et depuis le temps, la propriété, elle est payée. Donc, son loyer à 600 par mois pour la personne en haut, un grand 5,5, ben, elle, ça ne dérange pas, il n'y a pas de but financier, mais pour moi qui achète ces propriétés-là, moi j'en ai eu où ce que justement le loyer est à 600 $, tu fais les mathématiques, ça n'arrive pas. Je suis pas capable d'arriver financièrement avec ça, donc j'achète pas la propriété.
Je comprends.
J'ai pris celui
fait que c'est plus loyer. C'est plus une crise de l'immobilier, à votre avis, qu'une crise du logement. Vous diriez rapidement, Jean-François, puis je vais poser la question à M. Bruyette.
C'est une crise sociale, pour de vrai, parce que comme je disais à la personne qui m'a répondu, les salaires n'augmentent pas, ils sont stagnés depuis environ les années 80, alors que le prix de tout le reste continue à augmenter.
Tout à fait.
Éventuellement, un propriétaire, pour balancer son compte, doit augmenter son loyer, et puis ben éventuellement, les locataires n'auront plus les moyens. Et puis,
merci.
Quand vous parlez...
Je dois vous laisser là, parce que je veux vraiment donner la conclusion à M. Brouillette. Merci, on a bien compris votre idée, Jean-François. Hans Brouillette, Corpic. Vous m'avez fait un peu réagir tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire, mais quand vous avez dit les revenus des locataires ont augmenté, ça m'a étonné. Vous dites en disant ça que les revenus des Québécois ont augmenté plus que les loyers.
Oui.
C'est ce que vous
dites. On a obtenu les chiffres, les derniers chiffres sont ceux de 2019, là, mais les derniers chiffres démontrent c'est 42 600 le revenu net moyen des locataires au Québec. Il y a 25 ans, là, c'était 26 % le loyer moyen représentait 26 % du revenu net des locataires et aujourd'hui, c'est 22,5 %. Donc, l'abordabilité s'est améliorée. Mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, juste peut-être une mention sur la crise immobilière. Je trouvais ça intéressant. Vous savez, j'aimerais dire que oui, on vit une crise immobilière, mais je pense même pas qu'on est encore dans la crise immobilière. Quand les taux d'intérêt vont monter, là, Isabelle, vous allez voir, on va être dans une véritable crise immobilière. Et là, ça va toucher tout, y compris les loyers.
OK. Bon, bien, c'est sûr qu'on va continuer d'en parler. Merci beaucoup, Hans Brouillette, directeur affaires publiques de la Corporation, la Corpic, la Corporation des propriétaires du Québec. On s'arrête ici pour les nouvelles. Au retour, nous avons Mario Cyr avec nous. Restez là, tout le monde.